tout ce que tu as pour nous. Alléluia. Et ce que tu as pour nous ce matin, c'est de la puissance. Tu veux nous remplir de puissance. Ce matin, Dieu veut remplir son peuple de puissance. Vous êtes un réservoir de puissance. Vous êtes un réservoir d'onction. Vous êtes un réservoir de la présence de Dieu. Dieu veut vous remplir. Une des raisons pour lesquelles nous venons à l'église, c'est parce que Dieu remplit notre réservoir. Chacun d'entre nous, nous savons ce que c'est que de conduire une voiture. Lorsque nous conduisons une voiture et que nous conduisons une voiture et que nous conduisons une voiture, il arrive un moment où si nous ne remplissons pas le réservoir, la voiture tousse et puis la voiture s'arrête. Mais vous ne voulez pas que votre voiture s'arrête, n'est-ce pas? Donc vous allez à la pompe pour remplir le réservoir. Et l'église est là pour remplir votre réservoir d'onction, de louange, de présence, de puissance, de détermination, d'autorité. Vous ne venez pas ici pour devenir faible, vous venez ici pour devenir fort. Alléluia. Ce qui vous affaiblit, c'est la vie à l'extérieur. Là où il y a le monde, là où il y a les pensées du monde, là où il y a les oppressions du monde. Et vous y passez la majorité de la semaine. C'est pourquoi vous avez besoin de venir le dimanche pour remplir le réservoir. Et pas seulement une fois, mais encore deux fois pour remplir ce réservoir, parce que à l'extérieur, il y a un combat. Alléluia. Et je serais menteuse de vous dire qu'il n'y a pas de combat. Dans le millénium, il n'y aura pas de combat. Au ciel, il n'y aura pas de combat. Mais sur la terre, il y a un combat entre deux royaumes. Il y a deux royaumes qui se confrontent. Il y a un conflit de royaumes. Le royaume des ténèbres contre le royaume de la lumière. Et vous êtes au milieu de ce conflit. Et le diable se bat après vous et contre vous avec son royaume. Pour que vous changiez de royaume. Ou pour que vous succombiez à son royaume. Mais le royaume de Dieu doit être pleinement dans nos vies et dans notre cœur. Nous devons être pleins du royaume de Dieu, pleins de la puissance de Dieu, pleins de l'Esprit de Dieu pour combattre ce royaume. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'Église. Parce que l'Église vient nous renouveler dans notre identité, vient de nous renouveler dans notre autorité. Nous, vraiment, nous aiguise nos armes pour mener le bon combat de la foi. Alléluia. Il y a un combat. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de combat, que nous pouvons tous vivre la fleur au fusil, tranquillement, mais non, il y a un combat jusqu'à ce que nous quittions cette terre. L'ennemi est comme un lion, n'est-ce pas, qui veut dévorer, et nous devons être fermes sur nos positions. Maintenant, ce combat est déjà vaincu dans le nom de Jésus. L'issue de ce combat est déjà scellée, et nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Néanmoins, nous devons tenir notre terrain. Néanmoins, nous devons tenir notre position et nous devons résister au diable avec une foi ferme. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous parler, mais pas seulement vous parler, j'aimerais vous activer spirituellement dans une puissance qui nous appartient. Cette puissance est la nôtre. Elle nous a été donnée, elle nous a été acquise. C'est la puissance de l'intercession. Alléluia. Voyez, je n'attendrai même pas la semaine prochaine pour en parler. Maintenant, je vais en parler. Alléluia. Parce que je veux que le peuple de Dieu soit puissant dans la puissance de l'intercession. Alléluia. Dieu a donné à chacun d'entre nous le ministère de la réconciliation, mais aussi le ministère de l'intercession. Alléluia. Le ministère de la réconciliation, c'est le ministère de l'évangélisation, qui est le fait d'amener les âmes à Dieu. Mais nous sommes tous appelés aussi au ministère de l'intercession. Mais il y a évidemment des intercesseurs qui ont reçu vraiment le don. Mais tout le monde peut recevoir le don de l'intercession. Et je peux vous assurer que c'est une immense puissance que vous devez désirer et aspirer dans votre vie, d'être un puissant intercesseur. Alléluia. Amen. Un intercesseur est fort dans l'esprit. L'intercession n'est pas pour les gens faibles, c'est pour les gens forts. C'est pour les gens déterminés. Alléluia. Et c'est pour les gens puissants. Et c'est ce que toute l'Église a besoin d'être. Arrêtez de vous reposer sur la prière des frères et des sœurs. Je ne dis pas que vous n'ayez pas besoin de aussi d'être soutenus dans la prière. Nous avons tous besoin de prier les uns pour les autres. Mais certains s'appuient essentiellement sur la prière des autres et ne se lèvent jamais dans leur propre prière. Alors que Dieu vous appelle, vous, à fléchir vos genoux. Dieu vous appelle, vous, à prier et à recevoir ce manteau d'intercession. Alléluia. Et donc, je veux non seulement vous activer, mais je veux surtout que le Saint-Esprit vous active ce matin par sa puissance dans ce ministère, dans cet appel à l'intercession. Il y a deux choses qui sont sûres. C'est que Dieu ne nous a pas laissés seuls. Lorsque Jésus est reparti, Jésus a dit, il est bon, il est préférable que je m'en aille parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Donc Dieu, premièrement, ne nous a pas laissés seuls. Il nous a envoyé le meilleur partenaire que nous puissions avoir sur la terre, le Saint-Esprit. Même de sa bouche, Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille. C'était mieux que Jésus parte, ça paraît invraisemblable, mais c'était mieux que Jésus parte pour que le Saint-Esprit puisse venir. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre allié, c'est notre partenaire. Premièrement, Dieu ne nous a pas laissés seuls. Et deuxièmement, Dieu ne nous a pas laissés sans armes. Dieu n'a pas laissé son peuple désarmé. Il nous a laissé des armes. Il y a, dans la parole de Dieu, de nombreuses armes que Dieu nous a laissées, que Dieu nous a données. 2 Corinthiens 10, 4 nous dit, « Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Qu'est-ce que ça veut dire? Nous marchons selon la chair, n'est-ce pas? Bien sûr que nous marchons selon la chair, parce que nous sommes chair et sang et que nous sommes des êtres humains. Et donc, si nous marchons dans ce monde comme des êtres humains, cependant, nous ne combattons pas comme des êtres humains. Nous ne nous battons pas dans la chair. Nous ne réglons pas les problèmes avec nos poings. Nous les réglons avec notre esprit. L'esprit a un poing qui est plus puissant que vos poings. Alléluia. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Dis à ton voisin, ne combats pas par la chair. Car les armes, tout le monde dit les armes. Les armes. Pourquoi il y a des armes? Parce qu'il y a une guerre. Si nous n'étions pas en guerre ou s'il n'y avait pas une guerre, il n'y aurait pas besoin d'armes. Il y a besoin d'armes quand il y a une guerre. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont quoi? Puissantes. Ça veut dire que les armes charnelles ne sont pas puissantes. Elles sont faibles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Donc dis à ton voisin, tu as des armes. Nous avons des armes. Je ne sais pas ce par quoi vous faites passer. Vous avez des armes. Vous n'êtes pas sans armes. Premièrement, vous n'êtes pas seul. Deuxièmement, vous n'êtes pas sans armes. Vous avez le Saint-Esprit et vous avez les armes de Dieu. Vous avez le Saint-Esprit et vous avez les armes de Dieu. Prenez ces armes. Revêtez-vous de votre cuirasse. Prenez ce qui vous appartient. Amen. Laissez-moi vous rappeler rapidement quelques armes. Les armes puissantes que Dieu nous a données. Premièrement, Dieu nous a donné le nom de Jésus. Je ne vous entends pas. Nous avons reçu un nom. Le nom de Jésus. L'enfer tremble devant ce nom. Parce que ce nom a vaincu chaque démon, chaque autorité, chaque principauté, chaque démon dans les lieux célestes. Ils ont tous été vaincus par le nom de Jésus. Nous avons reçu ce nom. Savez-vous que Marie n'a pas eu le droit de donner à Jésus le nom qu'elle voulait? Un ange est venu et lui dit, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, qui est Yeshua, l'éternel sauve. Donc à chaque fois que vous dites au nom de Jésus, vous dites au nom de l'éternel qui sauve, au nom de l'éternel qui m'a sauvé. Alléluia. Amen. Marie n'a pas choisi le nom, Dieu a choisi le nom. Parce que ce n'est pas n'importe quel nom, c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi il est écrit dans Philippiens 2:10. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Alléluia, tout genou fléchisse. Dans les cieux, ça veut dire qu'il y a des genoux dans les cieux, hein? Ils fléchissent sur la terre. Ah oui, il y en a des genoux sur la terre. Mais encore sous la terre, toute forme de genou fléchit et va fléchir devant le nom de Jésus. Alléluia. Et nous déclarons dans notre vie que tous les genoux fléchissent par l'autorité de Christ. C'est pourquoi nous avons besoin de grandir dans la puissance de Dieu. Dieu a cette puissance, n'est-ce pas? Dieu est puissant. Et nous devons être revêtus de sa puissance. Alléluia. Nous portons le nom de Jésus et nous devons être remplis de la puissance de Dieu. Et nous avons besoin de grandir dans la puissance. Nous avons besoin de grandir dans l'autorité. Nous avons besoin de grandir dans l'onction. Écoutez-moi, peuple de Dieu, ne laissez pas l'onction baisser sur votre vie. Mais faites en sorte que l'onction grandisse continuellement dans votre vie. Le diable vient parfois vous épuiser avec toute forme de combat et de pensées négatives et dépressives pour vraiment vous voler votre onction. Il y a une chose que vous ne devez pas vous faire voler, c'est votre onction. Votre onction doit continuellement grandir. Parce que dans votre onction, il y a votre puissance. Protégez votre onction. Protégez votre manteau. Ne sortez pas de dessous du manteau de Dieu. Alléluia. Il y a une onction sur ce ministère. Il y a une onction, il y a un manteau qui est sur ce ministère. Alléluia. Ce manteau est venu avec l'apôtre. Alléluia. Le manteau ne monte jamais au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas besoin du manteau d'onction. Il n'y a pas besoin du manteau d'onction, il n'y a personne à guérir au ciel. Il n'y a personne à libérer au ciel. Tous les manteaux restent sur la terre. Alléluia. Et il y a un manteau. Et nous devons continuellement grandir dans l'onction. Votre onction doit grandir. Votre autorité doit grandir. Donc restez connectés à Dieu. Restez dans les choses de Dieu. Passez du temps dans la louange et dans l'adoration. Faites grandir votre onction. Faites grandir votre autorité. Hein, parce qu'il y a de l'autorité dans le nom de Jésus. Hein. Il est écrit que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. N'oubliez pas que lorsque les disciples ont commencé à prêcher au nom de Jésus, il y a eu tellement de miracles et tellement de conversions que dans Actes 4:18, ils les ont appelés et ils leur ont défendu absolument de parler et d'enseigner dans le nom de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, utilisez le nom de Jésus. Amen. Non seulement nous avons le nom, mais encore nous avons le sang. Que quelqu'un dise Amen. Rahab a compris la puissance du sang. Et lorsque la ville de Jéricho était sur le point d'être détruite, elle a mis une cordelette rouge à sa fenêtre qui représentait le sang de Jésus. Et au travers de cette cordelette rouge, la destruction n'est pas entrée. Parce que le sang vous protège de toute destruction. Plaidez le sang. Utilisez le sang de Jésus. Le sang est une arme puissante que Dieu nous a donnée. Dieu merci pour le sang de Jésus. Non seulement nous avons le sang, mais encore nous avons la parole de Dieu. Alléluia. C'est une des armes puissantes que la parole de Dieu, Éphésiens 6:17 déclare. Prenez donc le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est une épée, c'est une arme. Battez-vous avec l'arme de Dieu. Répondez à l'ennemi avec l'arme de Dieu. Jésus, dans le désert, ne s'est pas battu après le diable. Il a répondu au diable avec la parole de Dieu. Il est écrit, Satan, il est écrit. Dans vos circonstances, dites, il est écrit. J'ai ce symptôme, mais il est écrit. Je fais face à cette situation, mais il est écrit. Il est écrit. Alléluia. Le psaume 119, verset 140, nous dit, « Ta parole est entièrement éprouvée. » La parole de Dieu, elle est entièrement éprouvée. Et le mot éprouvé dans le texte original veut dire mise à l'épreuve. Elle a été raffinée et épurée. La parole de Dieu a été elle-même raffinée et épurée. Elle est éprouvée. Et nous pouvons l'utiliser. C'est une arme. Hébreux 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Ça veut dire que la parole, elle est vivante. Elle est comment la parole ? Vivante. Donc quand je parle la parole, je ne parle pas une parole qui est morte. Je parle une parole qui est vivante. Dans les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. J'ai déjà été guéri. Satan, il est écrit que dans les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Quels que soient ses symptômes, quelles que soient ses situations, je suis guéri. La parole de Dieu est éprouvée. Alléluia. Il est écrit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Alléluia. La parole de Dieu, elle est vivante et elle est puissante. 2 Timothée 3,16 nous dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Toute écriture, comment elle est ? Inspirée de Dieu. Donc nous avons une arme, c'est la parole. Et nous avons besoin de parler la parole à nos circonstances. Alléluia. Non seulement nous avons la parole, mais nous avons aussi la déclaration prophétique. Chacun d'entre nous devons savoir ce que c'est que la déclaration prophétique. Pourquoi est-ce que je vous donne toutes ces armes ? Parce que toutes ces armes sont nécessaires dans l'intercession. Dans l'intercession, vous avez besoin d'avoir la révélation du nom de Jésus. Dans l'intercession, vous avez besoin de connaître le sang de Jésus. Dans l'intercession, vous avez besoin d'avoir la parole. Vous devez intercéder et prier avec la parole. Les intercesseurs doivent prier selon la parole. Est-ce que je peux attendre un amen dans ce lieu ? Si nous voulons voir de la puissance dans nos prières et de l'efficacité dans nos prières, prions selon les armes de Dieu. Le nom de Jésus, le sang de Jésus, la parole de Dieu, mais encore la déclaration prophétique. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, vous avez besoin d'apprendre ce que c'est que la déclaration prophétique. Dieu a parlé à Ézéchiel dans Ézéchiel 37 et lui a dit, tu vois cette armée-là ? Tu vois ce que tu vois ? Ces ossements morts, c'est toute l'armée de l'Éternel qui est morte, qui est sèche. Maintenant, prophétise ! Esprit des quatre vents, viens et souffle sur ces eaux et qu'ils revivent. Qu'est-ce que Dieu a enseigné aux prophètes ? Dieu a enseigné aux prophètes l'importance de la déclaration prophétique. Prophétisez sur votre mariage, prophétisez sur vos enfants. Alléluia. La plupart du temps, on prophétise sur les choses qui ne sont pas encore. Bien souvent, elles sont à l'inverse de ce qu'elles devraient être. C'est à ce moment-là qu'on prophétise. C'est pas la peine de prophétiser sur les choses qui sont déjà accomplies. Mais quand tout va mal, quand il y a des mauvaises nouvelles, quand on est triste, quand ce que l'on voit nous déprime, c'est là qu'il faut libérer la déclaration prophétique. Devant des ossements morts, Dieu a dit au prophète maintenant, prophétise. Il n'a pas prophétisé devant quelque chose de frais, de vivant, de beau. Non, il a prophétisé devant quelque chose de mort, quelque chose qui était désespéré. C'est ça la puissance de la déclaration prophétique. Un intercesseur a dans sa vie la puissance de la déclaration prophétise. Il prophétise. La Bible dit que nous devons appeler à l'existence les choses qui ne sont pas. Elles ne sont pas, mais nous les appelons dans le nom de Jésus. Nous appelons nos enfants à la maison. Nous appelons la restauration de notre mariage. Nous appelons la guérison de notre corps. Nous appelons les finances surnaturelles. Nous appelons la provision. Nous appelons la percée. Nous appelons le retour des choses que nous avons perdues. Nous appelons. Alléluia. La déclaration prophétique demande d'avoir un esprit fort. Vous ne pouvez pas pleurer sur les choses que vous avez perdues et espérer prophétiser. Non, vous devez être fort dans l'esprit. Et après, quand vous êtes fort, vous déclarez de façon prophétique. C'est une arme puissante. Une arme puissante, c'est l'adoration. Parce que mes amis, lorsque vous avez invoqué le nom de Jésus, proclamé le sang de Jésus, que vous avez libéré la parole de Dieu, que vous avez fait la déclaration prophétique, alléluia, vous avez besoin d'adorer. Parce que l'adoration est une arme. C'est une arme extraordinaire. Alléluia. Quoi de plus merveilleux que d'adorer Dieu lorsque les choses ne sont pas encore. Nous nous rappelons de Myriam qui a pris le tambourin. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils sont passés de l'autre côté. Myriam a pris le tambourin, elle a sauté, elle a dansé. Elle s'est réjouie dans le Seigneur. Elle a dit que l'Éternel soit loué. Bien sûr, Dieu avait ouvert la mer. Alléluia. Mais ce n'est pas cette adoration qui a plu à Dieu. Parce que, n'est-ce pas, c'était avant qu'il fallait adorer. Adorer avant que Dieu agisse. C'est bien d'adorer, évidemment, lorsque Dieu a accompli le miracle. Mais avant de voir le miracle, avant de voir la solution, avant de voir les choses changer, adorer Dieu, ça s'appelle la foi. Alléluia. Ça s'appelle la foi. La foi adore quand les choses ne sont pas. Utilisez le nom de Jésus, le sang de Jésus, la parole de Dieu, la déclaration prophétique, et après adorer Dieu. Je ne vois pas encore, mais qu'est-ce que je l'ai déjà dans ma main? Je l'ai déjà avec moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Adore, même quand tu as encore une douleur. Adore, même si tu as encore des questions. Adore, en dépit du rapport qu'on t'a fait. Adore, en dépit de ce que tu vois. Adore, provoque le surnaturel. Provoque le surnaturel par les armes de Dieu. Sois plus puissant que ce que tu vois. Sois au-dessus de ce que tu entends. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je veux vous parler d'une des armes que Dieu nous a données, évidemment, qui est l'intercession. C'est une arme puissante. Alléluia. Elle est formidable parce que l'intercession, elle est défensive et offensive. Elle est préventive et curative. Alléluia. Et je pense que l'intercession, son rôle est d'être beaucoup plus préventive que curative. Parce que lorsque l'on est rempli dans le Saint-Esprit, Dieu va nous demander d'intercéder pour des choses pour qu'elles ne se passent pas. Et en cela, elle est préventive. Maintenant, si les choses se sont passées, évidemment, l'intercession sera curative. C'est-à-dire que nous allons prier pour récupérer ce que nous avons perdu. Mais nous ne sommes pas obligés de perdre. Nous pouvons aussi prier avant que les choses se passent et les arrêter dans le monde spirituel. Ça s'appelle l'intercession. C'est important que toute l'Église soit activée dans l'intercession. Alléluia. L'intercession n'appartient pas aux intercesseurs. L'intercession n'est pas le seul travail des intercesseurs. Aujourd'hui, Dieu appelle toute l'Église à intercéder. En 2015, dans les temps dans lesquels nous sommes dans les temps de la fin. Jésus revient bientôt. Le monde est en train de changer devant notre face. Nous voyons les nations changer. Nous voyons les choses s'organiser autour d'Israël. Nous voyons des peuples se lever. Nous voyons des choses se passer même dans notre nation. Nous sommes dans des temps rapprochés. Nous sommes dans des temps d'accélération. Et ce n'est pas le moment de décélérer. C'est le moment d'accélérer. Parce que les choses s'accélèrent, nous aussi nous devons accélérer. L'Église de Jésus-Christ doit être vivante, elle doit être puissante. L'Église de Jésus est une armée, c'est une famille, mais c'est une armée. Nous ne pouvons pas simplement avoir une Église qui est une famille. Comment ça va mon frère? Comment ça va ma sœur? Alléluia. Bien sûr que lorsque nous venons à l'Église, nous venons dans notre famille. Et nous sommes là ensemble, mais l'Église n'est pas qu'une famille, l'Église est une armée. La Bible est remplie de termes militaires. Dieu est un Dieu de guerre. Il est écrit qu'il forme nos mains à la bataille. Nos doigts au combat. Alléluia. Parce que l'Église doit aussi être une armée. Et une armée, elle est militante. Elle sait prier. Et je vous le dis dans le nom de Jésus, par l'Esprit. Alors que nous sommes encore dans l'entrée de cette année, toute l'Église est appelée à l'intercession. Il y a un appel par l'Esprit à ce que toute l'Église monte dans la prière et dans l'intercession. Nous sommes appelés à prier pour la nation. Nous sommes appelés à prier pour l'Église. Nous sommes appelés à prier pour les frères et les sœurs, les uns pour les autres. Nous sommes appelés à prier pour nos familles, sauver nos mariages, sauver nos familles, nos enfants. L'Église doit être saisie par un esprit d'urgence. Il y a une urgence. Il y a des gens qui partent dans l'éternité et dans la mort tous les jours, loin de Dieu. C'est dur. C'est même incompréhensible. Et nous avons besoin qu'on nous rappelle constamment que le ciel existe et que l'enfer existe. Une église qui perd de vue la réalité de l'enfer est une église qui est faible, endormie, et qui va se reposer sur ses acquis. Nous devons nous souvenir qu'il y a un enfer qui est réel, et aussi incroyable et abominable cela puisse être. Les gens qui n'ont pas Jésus et qui ne sont pas sauvés, lorsqu'ils ferment les yeux sur la terre, ils ouvrent les yeux en enfer. Ils ouvrent les yeux dans une réalité dans laquelle ils sont, ils savent qu'ils sont éternellement séparés de Dieu. Éternellement séparés de Dieu. Quand on voit ce que le diable est capable de faire sur cette terre, au travers de gens, quand on voit comment le diable peut être cruel et méchant, et ce sont des mots faibles, alors qu'il agit au travers de gens, comment sera-t-il lui-même, en personne, avec des gens dans sa main pour l'éternité? Pensez qu'il y a un brin d'humanité en lui? Pensez qu'il y a un brin de compassion? Pensez qu'il y a un brin d'amour? Qu'il y aura un brin de respect? Non, il est l'être humain. Satan est l'être humain. Parce que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Parce que nous sommes l'image, la représentation de Dieu et que Satan est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il veut détruire l'être humain. Détruire la création que Dieu a lui-même créée, dans laquelle il a insufflé son esprit. Il n'y aura aucune miséricorde. C'est pourquoi nous devons intercéder pour nos familles. Intercéder pour nos bien-aimés. Intercéder pour la nation, intercéder pour le royaume de Dieu. Nous devons intercéder pour faire l'œuvre de Dieu sur cette terre, intercéder pour évangéliser, intercéder pour gagner les âmes. L'Église doit être investie dans ce combat. Ce n'est pas le combat d'une personne, c'est le combat de toute l'Église. C'est le combat de toute l'Église. Dieu merci pour les enfants que Dieu nous donne. Dieu merci pour les maris et les femmes que Dieu nous donne. Dieu merci pour les appartements, les voitures que Dieu nous donne. Dieu merci pour les bonnes choses que Dieu nous donne. Et Dieu veut nous en donner encore plus. Mais les choses que Dieu nous donne ne sont pas pour nous arrêter de le servir. Pour nous sortir de la concentration et que nous devenions des gens déconcentrés, qui aimons les choses du monde plus que les choses de Dieu. Non, les choses que Dieu nous donne sont pour nous bénir, pour nous rassasier, pour nous satisfaire. Mais elles ne doivent pas enlever le prix de notre course. Elles ne doivent pas nous éloigner du but. Elles ne doivent pas nous déconcentrer. Nous ne pouvons pas adorer la bénédiction et non celui qui bénit. Nous ne sommes pas là, l'Église n'existe pas pour être un centre de distribution de bénédiction. L'Église existe comme un centre de salut pour que les gens viennent et fléchissent les genoux devant Jésus et soient sauvés. Et après, Dieu donne toute forme de bénédiction, alléluia, dans la vie des gens. Mais nous ne cherchons pas la bénédiction. Ne suivez pas Jésus pour une bénédiction. Ne venez pas à l'église pour trouver un mari, une femme. Il y a des gens qui viennent et qui se lèvent à l'église et qui passent beaucoup de temps pour se préparer parce que leur objectif, c'est de s'asseoir à côté de frère un tel ou de sœur un tel. Et ça ne me fait pas du tout plaisanter, parce que ce n'est pas le rôle de l'Église. Parce que vous venez à l'Église pour vous-même et par vous-même. Vous venez à l'Église parce que vous cherchez Dieu et que vous avez besoin de puissance et d'autorité et de solutions et de clés pour arrêter les plans de l'ennemi, pour détruire ses œuvres, pour arrêter le voleur sur votre vie, votre mariage, vos enfants, votre famille. L'ennemi, il a un rôle, un travail, il le connaît son travail. Jean 10:10 nous dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Voler, égorger et détruire. Voler, égorger et détruire. Ça, c'est son travail. C'est ce que le diable fait, c'est ce qu'il sait faire. Il s'emploie à faire cela. Partout où il voit une brèche, partout où il voit une faille, partout où il voit une porte ouverte. Et nous n'allons pas à l'église pour porter un beau costume ou pour nous asseoir à côté de telle personne et pour se demander ou se poser des questions romantiques. Nous venons à l'église parce que nous avons besoin de clés. Nous avons besoin d'onction. Nous avons besoin de puissance. Nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin de nouvelles pensées. Nous avons besoin d'être renouvelés. Nous avons besoin de force. Nous avons besoin de détermination. Alléluia. Nous avons besoin de changement. Nous avons besoin de fléchir les genoux devant Jésus. Soumettre notre vie, voir la gloire de Dieu dans notre vie. Il y a des gens qui ont les mêmes problèmes dans leur vie depuis des années. Depuis des années, ce sont les mêmes choses et ils tourneront et ils tourneront et ils tourneront. Prenez la parole de Dieu, soumettez votre vie à Dieu. Changez avant que le diable ne vous avale. Vous ouvrez des brèches à l'ennemi. Vous ouvrez des brèches dans votre famille, vous ouvrez des brèches dans votre couple, vous ouvrez des brèches dans votre vie personnelle. C'est le temps de les fermer, ces brèches. Parce que l'ennemi ne vous fera pas de cadeau, il va rentrer dans ces brèches. Et vous avez besoin de vous soumettre à Dieu et à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, je veux vous parler de la puissance de l'intercession. Et Dieu appelle toute l'Église à l'intercession. Dieu appelle tout son peuple à intercéder. Bien sûr qu'il y a la prière. Mais ce matin, je ne parle pas de la prière. Les gens savent prier. Et c'est important de prier. J'ai besoin de prier. Qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, c'est ma communion avec Dieu. C'est quand je parle à Dieu, que je présente mes requêtes à Dieu, que je suis en communion avec mon Père. Quand je prie, on ne m'entend pas. Mais quand j'intercède, on m'entend. Jésus a dit, les disciples sont venus vers Jésus et lui ont dit, enseigne-nous à prier. Comment on fait pour prier? Jésus leur a dit une chose très simple. Il leur a dit dans Luc 11, il a enseigné la prière, il a enseigné un type de prière, un modèle de prière, le Notre Père. Il a dit, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et délivre-nous du mal. Vous connaissez cette prière, bien sûr. Donne-nous notre pain quotidien. Donc ça, c'est la prière. Qu'est-ce que c'est la prière? C'est la communion avec Dieu. Je parle à mon Dieu. Je suis en relation avec mon Dieu. Alléluia. La prière est importante. La prière multiplie l'onction sur votre vie. Parce que vous êtes en relation et en présence avec votre Père, avec votre Dieu. Mais la prière n'est pas l'intercession. Beaucoup de gens prient, beaucoup de gens savent prier, peu savent intercéder. Beaucoup de gens prient, et même le vendredi soir, je vois beaucoup de gens qui prient. Mais je vois peu de gens qui intercèdent. Ce n'est pas une majorité de gens qui intercèdent. Il y a une majorité de gens qui prient. L'intercession, c'est autre chose. Il faut connaître l'intercession parce que c'est une arme vitale pour le corps de Christ. C'est une arme extrêmement importante. Maintenant, comprenez que l'intercession n'est pas automatique. L'intercession est conduite par le Saint-Esprit. Elle doit être conduite par le Saint-Esprit. Il y a des gens... Ils ne savent plus prier parce qu'ils savent tellement bien intercéder qu'ils ne savent même plus prier. Et qu'à chaque fois qu'il faut ouvrir la bouche, ils intercèdent. Donc ils sont des mitraillettes. Ils mitraillent dans tous les coins. L'intercession est conduite par le Saint-Esprit. On n'intercède pas de façon automatique et systématique. Il y a des gens, vous leur donnez le micro, et là... En tout temps et en toutes circonstances. Il y a des gens qui s'enferment dans l'intercession. Il y a des gens pour qui le salut, c'est l'intercession. Ils vivent pour l'intercession. Et ils ont oublié toutes les autres armes que sont la foi, la parole, la prière, l'adoration. Alléluia. Je ne vous dis pas de vous enfermer dans l'intercession. Il n'y a pas que l'intercession. Parce que dans l'intercession, il n'y a pas la communion. Dans l'intercession, il y a des choses qui... Donc, ce n'est pas toujours l'intercession. Néanmoins, l'intercession, comme je le disais, est indispensable et importante pour le corps de Christ, afin d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre, afin de briser les obstacles et les plans préparés par l'ennemi. L'intercession arrête les plans préparés par l'ennemi. Même aujourd'hui, si l'ennemi fomente des plans contre votre vie, vous pouvez les arrêter. Vous pouvez les arrêter. Vous ne luttez pas contre la chair et le sang. N'oubliez pas que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Quand bien même le diable voudrait vous détruire, quand bien même le diable veut vous tuer, quand bien même le diable veut envoyer des gens et des circonstances contre vous, vous avez le pouvoir de les arrêter à distance. Avant que ces choses se produisent. C'est pour ça que nous avons besoin d'être sensibles au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous dira et nous préviendra un certain nombre de choses. Et grâce aux avertissements du Saint-Esprit, nous pouvons arrêter les plans fomentés par l'ennemi au travers de l'intercession. Je veux que l'Église soit une Église d'intercession. Que tout le monde entre dans ce grand ministère et appel que l'intercession pour arrêter les plans de l'ennemi contre votre vie, contre votre famille, contre l'Église, contre le royaume de Dieu, contre la nation. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc l'intercession, elle est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu, briser les obstacles et les plans de l'ennemi et pour libérer l'action surnaturelle de Dieu. L'intercession est nécessaire pour libérer l'action surnaturelle de Dieu. Amen. Alléluia. Et il y a des sujets sur lesquels nous devons continuellement intercéder. Alléluia. Il y a des sujets pour lesquels l'Église a besoin de continuellement intercéder. L'Église doit continuellement prier pour le salut des âmes, pour l'enracinement des nouveaux convertis, pour la protection et la croissance de l'Église, pour arrêter les plans de l'ennemi. Alléluia. Il y a des sujets sur lesquels l'Église doit constamment prier. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Est-ce que vous voulez être activés dans l'esprit d'intercession? Alléluia. Dieu cherche, la Bible dit que Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme ou une femme. Qu'est-ce que l'intercession? Qu'est-ce que l'intercession? Il y a eu dans la Bible de nombreux intercesseurs. Esther est un des plus grands symboles de l'intercession. Amen. Une femme qui est avertie d'un plan à venir de destruction et de mort. À qui Mardoché, qui représente le Saint-Esprit, vient vers elle et lui dit, ne te trompe pas Esther, si tu ne te lèves pas, tu seras morte comme les autres. Il en est fait de toi aussi. Et Esther rassemble son peuple dans le palais, rassemble des gens. Et là, elle se met à jeûner et à prier pendant 3 jours. Et en 3 jours, le plan de l'ennemi pouf, est renversé. C'est puissant. En 3 jours, le plan de l'ennemi est détruit. Ce que l'ennemi était venu faire en mal, Dieu a renversé les choses. Mais il a fallu qu'une personne se lève. Il a fallu qu'une personne se lève. Et Esther est vraiment une des grandes représentatrices de l'intercession, de la puissance de l'intercession. Et comment un plan démoniaque peut être changé? Et nous voulons que Dieu nous utilise, n'est-ce pas, pour inverser les plans de l'ennemi. Hein. Vrai ou faux? Alléluia. Ça demande de prier par l'Esprit et de savoir ce qu'est l'intercession. Ce n'est absolument pas possible pour moi ce matin de couvrir ce sujet en une demi-heure ou trois quarts d'heure ou une heure de prédication ou d'enseignement. C'est pourquoi je continuerai la semaine prochaine, alléluia, dans ce sujet, vendredi soir, et nous allons prier aussi vendredi soir, et puis dimanche, particulièrement dimanche après-midi, nous continuerons dans ce sujet et nous prierons ensemble. Mais laissez-moi vous partager encore un ou deux points. Qu'est-ce que l'intercession ? Dis à ton voisin, qu'est-ce que l'intercession ? Prenez Ézéchiel 22:30. Ézéchiel 22:30. Dieu dit, je cherche un homme qui élève un mur. Ha ha. Qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Et il dit plus tard, mais je n'en trouve pas. Qu'est-ce que l'intercession ? Dieu dit, je cherche un homme. Premièrement, vous devez savoir que c'est Dieu qui cherche. Dieu cherche des gens. Dieu a besoin d'intercesseurs. Dieu a besoin d'hommes et de femmes positionnés. Il cherche. Il cherche quoi ? Il ne cherche pas un ange. Il ne cherche pas un animal. Il ne cherche pas un arbre. Il cherche un homme, une femme, une personne. Parce que Dieu ne peut pas agir sur la terre sans l'intervention d'un homme ou d'une femme. Dieu est limité. J'aimerais bien que ce ne soit pas la réalité. J'aimerais vraiment que ce ne soit pas le cas. Ce serait plus simple et plus facile si Dieu n'était pas limité. Mais la réalité, c'est que Dieu est limité. Et qu'à moins qu'un homme ou une femme prie, Dieu ne peut pas agir. Dieu ne pouvait pas nous sauver à moins que Dieu lui-même vienne dans la chair en Jésus-Christ, meure pour nos péchés, et là nous avons été sauvés. Il a fallu que Jésus vienne sur la terre et devienne un homme comme nous pour que nous soyons sauvés. Ça veut dire que là-haut dans le ciel, Dieu ne pouvait pas violer ses lois. Il ne pouvait pas venir arriver sur la terre, hop, en sa personne. Non, aujourd'hui, l'œuvre de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu est libérée sur la terre au travers d'hommes et de femmes qui sont de bonne volonté, qui sont des réservoirs de la puissance de Dieu et qui libèrent le plan de Dieu et la volonté de Dieu sur la terre. Qu'est-ce qu'il est écrit dans le Notre Père ? Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais elle est faite au travers d'hommes et de femmes. Elle est faite au travers de ceux qui obéissent à Dieu. Elle est faite au travers de ceux qui payent le prix. Elle est faite au travers de ceux qui vont accomplir la volonté de Dieu. Si personne ne veut accomplir la volonté de Dieu, alors le monde va tomber dans un sommeil spirituel où les gens vont mourir. Les grands réveils sont venus dans le monde au travers d'hommes et de femmes qui se sont levés pour Dieu et qui ont payé le prix et qui ont amené l'onction de Dieu et le réveil de Dieu sur la terre. Et c'est pourquoi nous sommes là. Alléluia. Dieu merci pour les grands revivalistes. Alléluia. Et nous avons bénéficié de tellement d'hommes et de femmes qui ont accompli des choses extraordinaires pour Dieu. Mais il a fallu que Dieu trouve un homme ou une femme. Alléluia. Donc qu'est-ce que l'intercession ? Dieu dit « je cherche ». Dieu cherche. La Bible dit que les yeux de Dieu parcourent toute la terre pour chercher un homme dont le cœur sera droit, sera disposé envers Dieu. Dieu cherche, les yeux de Dieu parcourent toute la terre, cherchant qui le servira, qui lui obéira, qui sera fidèle, qui paiera le prix, qui se tiendra sur la brèche. La réponse doit être « moi, Seigneur ». Toute l'Église et le corps de Christ, et particulièrement en France, a besoin de répondre « moi, Seigneur ». Tu cherches quelqu'un ? Trouve-moi, moi. Je suis là. Compte sur moi. Je suis disposé. Alléluia. Donc Dieu cherche, il cherche qui ? Un homme. Pourquoi ? Pour élever un mur. Parce que l'intercession va bâtir un mur. L'intercession va construire un mur. Et je suis allée voir dans l'origine même du mot de ce mur. Ce mur ne veut pas seulement dire mur, mais encore muraille, forteresse, tout. château. Quelqu'un qui va construire un mur pour faire barrage à l'ennemi, pour arrêter ses plans, pour libérer le réveil, pour libérer l'Esprit de Dieu sur la nation de France. Et qui se tienne sur la brèche. Qu'est-ce que c'est la brèche? La brèche, c'est une crevasse, c'est une faille, c'est une ouverture, là où il y a une faiblesse. Le diable entre par des brèches. Il cherche une brèche dans votre vie. Et il y en a des brèches dans nos vies. Personne n'a pas de brèche. Nous avons tous des brèches. C'est pourquoi nous avons besoin de prières, pour empêcher l'ennemi d'entrer même dans nos brèches, pour le rejeter de nos brèches, parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on a des brèches, on a des faiblesses, on a des moments de découragement, on a des paroles regrettables, on a fait des erreurs, et on en fera encore, parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Et je dis au couple, vous ne trouverez jamais Mr. Perfect. Mr. Perfect n'existe pas. Et Mrs. Perfect n'existe pas non plus. Nous épousons et nous vivons avec des gens imparfaits. Mais l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre les fautes. L'amour couvre les péchés. Alléluia. Nous sommes imparfaits, nous vivons avec des gens imparfaits, nous-mêmes étant imparfaits. Donc un peu de grâce, s'il vous plaît. Mettez de la grâce dans votre cuisine, là. Dans la cuisine de votre vie, ajoutez et assaisonnez de grâce, de faveur. Mettez de la grâce, pas qu'envers vous-même, hein. Ah, nous sommes très gracieux envers nous-mêmes. Nous nous faisons grâce de tous nos péchés. Nous nous faisons grâce de toutes nos fautes. Mais donnons de la grâce aux autres. Donnons de la faveur aux autres. Donnons du pardon à l'autre. Ayons de la tolérance envers l'autre. Un intercesseur, il bâtit un mur et il se tient sur la brèche. Ça veut dire là où il y a une faille. Brèche veut dire faille, crevasse, faiblesse, mur brisé, ouverture, éclatement. Un trou, quoi. Et on sait que l'ennemi passe par les trous. Cherche les failles. Mais un intercesseur, il se tient là, au niveau de la faille. Et il repousse l'ennemi. Dieu va colmater cette faille. Mais la prière empêche l'ennemi d'entrer par cette faille. Oui, il y a une faille. Mais la prière empêche l'ennemi d'entrer dans la faille. C'est ça un intercesseur. Ésaïe 59, verset 16, nous dit, Dieu voit qu'il n'y a pas un homme et il s'étonne de ce que personne n'intercède. Et encore, nous voyons ici le mot intercéder. Donc nous voyons que dans la réalité, il y a peu d'intercesseurs, beaucoup de gens qui prient, peu qui intercèdent. Maintenant, j'ai tellement de choses à vous dire sur l'intercession. Et je n'aurai pas le temps ce matin, comme je l'ai dit. Néanmoins, laissez-moi vous donner encore quelques points et puis nous allons prier. Mais j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Qu'est-ce que c'est qu'intercéder? Très rapidement, mais je développerai plus tard. Intercéder, c'est d'abord prier par l'Esprit. Un intercesseur se connecte à l'Esprit. Il ne prie pas selon sa chair. Il ne prie pas selon ses émotions. D'ailleurs, bien souvent, nos émotions nous disent de ne pas prier. Donc, un intercesseur, il va commencer à prier par l'Esprit. Et prier par l'Esprit, c'est chercher la pensée de l'Esprit. C'est pour ça que quand nous commençons à prier le vendredi soir, nous passons du temps à prier en langue, parce que nous ne voulons pas prier selon nos propres pensées. Nous voulons prier selon l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais dire à tous ceux qui brillent par leur absence à la prière, alors qu'ils étaient, même pour certains il y a quelques années, fidèles dans la prière, vous devez revenir dans la prière. Vous devez revenir prier le vendredi soir. Alléluia. Faites attention à l'esprit rétrograde. L'esprit rétrograde est un esprit dangereux. il vous grignote petit à petit. Et vous ne voyez pas, mais au bout d'un moment, poum, terminé. Faites attention. Ne donnez pas du terrain à l'ennemi. Il y a des choses qui, par principe, quoi que je sente et quoi que je pense, je ne concéderai pas du terrain à l'ennemi dans ma vie. Vous comprenez? Quand je suis venue prier vendredi soir, j'étais très fatiguée. J'étais malade. Je suis rentrée de mon voyage malade. Mais peu importe que je sois malade, il y a du terrain que je ne concède pas à l'ennemi. Et un terrain que je ne lui concède pas, tout le monde peut prier à ma place ici. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se tenir là, prier, intercéder avec puissance. Il n'y a aucun problème. Je peux très bien me dire, oh, je vais laisser frère un tel, sœur un tel, responsable, qui que ce soit, prier, intercéder, et je sais que ça se passera bien. Il n'y a aucun problème pour cela. Mais je ne laisserai pas et je ne concéderai pas ce terrain à l'ennemi. En étant au chaud dans mon lit, et en étant en fait de plus en plus mal, alors que quand je viens prier le vendredi soir, j'arrive, je peux être fatiguée, ou me sentir mal, ou malade, ou quoi que ce soit, mais j'en ressors totalement restauré, guéri, prêt à me battre contre un lion. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu. Il y a des gens, vous concédez du terrain à l'ennemi en disant, oh c'est mon travail, oh c'est ma fatigue, oh c'est ma journée. Qu'est-ce que c'est ça? Quel genre de personne êtes-vous? Est-ce que vous plaisantez? Il y a des gens qui disent, ah, ce sont mes enfants. Dieu merci, il n'y a pas école le samedi matin. Et tes enfants, tu as prié combien d'années pour les avoir? Maintenant, tu restes à la maison? Qu'est-ce que c'est que l'esprit d'intercesseur? Hein? C'est quelqu'un qui va prier par l'esprit. Il va chercher la pensée de l'esprit. Premièrement. Deuxièmement, il va recevoir un fardeau de la part du Saint-Esprit. C'est pourquoi on ne peut pas intercéder sans fardeau. Dieu va donner un fardeau. Il va downloader, comment on dit en français? Download. Décharger? Télécharger. Il va vous télécharger un fardeau spirituel. Prie pour sœur Intel. Prie pour l'église. Prie pour le ministère. Prie pour le pasteur. Prie pour les nouveaux convertis, prie. Il va décharger, télécharger en vous un fardeau. C'est comme quand le postier vient à votre porte. Ding dong, vous ouvrez la porte, il dit j'ai un colis pour vous. Signez-la madame, signez-la monsieur. Vous prenez le colis ou vous ne le prenez pas? Vous prenez le fardeau ou vous ne le prenez pas? Le Saint-Esprit vient, il a un colis. Et j'ai un colis pour toi. Prie pour les nouveaux convertis. J'ai un colis pour toi, prie pour le réveil. J'ai un colis pour toi, prie pour le mariage. J'ai un colis pour toi, prie pour ta famille. Tu signes là ou tu ne signes pas là? Tu le prends le fardeau ou tu ne le prends pas? Le colis, tu le prends ou tu ne le prends pas? Un intercesseur prend le colis. Il prend le fardeau. Parce qu'un intercesseur, il prie avec un fardeau. Alléluia. Il prie avec un fardeau. Donc premièrement, il prie par l'esprit. Deuxièmement, il reçoit le fardeau. Troisièmement, il combat avec Dieu. Un intercesseur ne passe pas son temps à se battre contre le diable. Le diable est sous ses pieds. Il prie avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le même genre de prière. Je ne dis pas que nous ne lions pas le diable et ne le mettons pas sous nos pieds. Nous devons le faire. Mais il y a un certain nombre de choses avec lesquelles nous avons besoin de prier par l'esprit. Nous sommes avec Dieu. Dieu est avec nous pour libérer des choses sur la terre. Donc c'est une prière avec Dieu. Et ce n'est pas une prière contre, c'est une prière avec. Nous ne pouvons pas passer notre vie à faire de la prière contre. Nous devons prier contre, bien sûr. Nous prions et nous arrêtons certaines œuvres, nous prions contre. Mais dans l'intercession, il n'y a pas que le fait de prier contre. Nous prions pour et nous prions avec. Donc la prière d'intercession, c'est une prière avec. Alléluia. Dieu et vous, vous êtes en tandem. Vous êtes dans un tandem. Dieu a besoin de vous. Vous êtes lui sur la terre. Vous êtes un vase. Vous êtes un corps. Vous êtes la personne dont Dieu a besoin. Et maintenant, vous libérez. Vous libérez les choses de Dieu dans l'intercession, dans la prière. Shikari rama, ondari rama, ereba shikiyasura rama. Dieu commence à intercéder à l'intérieur de vous. N'oubliez pas qu'il est écrit que l'Esprit de Dieu intercède au travers de nous. C'est ça l'intercession. Il y a le prier contre, bien sûr. Mais la large partie de l'intercession, c'est de prier avec. L'Esprit de Dieu prie au travers de nous, par le Saint-Esprit. Il y a des choses que nous avons besoin d'approfondir sur cela, bien sûr. Et quatrièmement, c'est que l'intercession prie jusqu'à ce que. Un intercesseur prie jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que ce soit fait spirituellement. Et donc, dans l'intercession, il y a un accouchement. Quand le bébé sort, c'est terminé, hein, il n'y a plus besoin de pousser. On ne dit plus à la maman, poussez madame. Non, le bébé est sorti. Hein. Quand le bébé est sorti, la maman se repose. Elle s'endort. Elle est épuisée. Elle embrasse son bébé. Elle est heureuse de voir son bébé et elle tombe de sommeil. Elle tombe d'épuisement. Elle est fatiguée. On ne dit pas à une maman qui vient de donner naissance à un bébé, poussez madame, poussez encore. Non, c'est fini. Mais un intercesseur, il prie jusqu'à ce que l'enfantement se fasse. Une fois que l'enfantement est fait, même si on ne voit rien dans le naturel, pas de problème parce que c'est fait. C'est fait. Il est libéré dans l'esprit, c'est fait. Dans une semaine, un mois, je ne sais pas combien de temps, mais il verra le résultat de sa prière. Parce que c'est fait. Donc je vous dis très rapidement ces choses à propos de l'intercession, afin que vous soyez activés par le Saint-Esprit. Dieu appelle son peuple à prier et intercéder pour votre famille, votre église, votre nation, le salut des perdus. C'est les choses principales pour lesquelles nous devons prier, plus les autres choses évidemment, dans lesquelles Dieu nous conduit. Est-ce que je peux avoir un amen pour cela? Est-ce que vous avez reçu? Ok, je veux arrêter maintenant. Alléluia. Alléluia.